Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc de nouveau ensemble pour des lectures en liberté. Et nous allons prendre ce soir un nouveau début de roman. Ce sera Le petit bleu de la côte ouest de Jean-Patrick Manchette. Et il arrivait parfois ce qui arrive à présent. Georges Gerfaut est en train de rouler sur le boulevard périphérique extérieur. Il est 2h30 ou peut-être 3h15 du matin. Une section du périphérique intérieur est fermée pour nettoyage et sur le reste du périphérique extérieur, la circulation est quasi nulle. Sur ce périphérique extérieur, il y a peut-être 2 ou 3, ou au maximum 4 véhicules par kilomètre. Quelques-uns sont des camions, dont plusieurs sont extrêmement lents. Des autres véhicules sont des voitures particulières qui roulent toutes à grande vitesse, bien au-delà de la limite légale. Plusieurs conducteurs sont ivres. C'est le cas de Georges Gerfaut. Il a bu 5 verres de bourbon. D'autre part, il a absorbé, voici environ 3 heures de temps, 2 comprimés d'un barbiturique puissant. L'ensemble n'a pas provoqué chez lui le sommeil, mais une euphorie tendue qui menace à chaque instant de se changer en colère, ou bien en une espèce de mélancolie vaguement tchékovienne et principalement amère, qui n'est pas un sentiment très valeureux ni intéressant. Georges Gerfaut roule à 145 km/h. Georges Gerfaut est un homme de moins de 40 ans. Sa voiture est une Mercedes gris acier. Le cuir des sièges est acajou. Et de même l'ensemble des décorations intérieures de l'automobile. L'intérieur de Georges Gerfaut est sombre et confus. On y distingue vaguement des idées de gauche. Au tableau de bord de la voiture, au-dessus des cadrans, se voit une petite plaque métallique mate où sont gravés le nom de Georges, son adresse, son groupe sanguin et une représentation merdeuse de Saint-Christophe. Par le truchement des 2 diffuseurs, un sous le tableau de bord, un sur la plage arrière, un lecteur de cassette diffuse à bas niveau du jazz de style West Coast, du Jerry Mulligan, du Jimmy Guifre, du Bud Chunk, du Chico Hamilton. Je sais par exemple qu'à un moment, ce qui est diffusé est Trucking de Rube Bloom et Ted Koller par le quinquette de Bob Brookmeyer. La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique avec des réflexes diminués et en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout dans la place de Georges dans les rapports de production. Le fait que Georges a tué au moins 2 hommes au cours de l'année n'entre pas en ligne de compte. Ce qui arrive, à présent, arrivait parfois auparavant. Alonso Emmerich y Emmerich était aussi quelqu'un qui a tué des hommes en beaucoup plus grand nombre que Georges Gerfaut. Il n'y a pas de commune mesure entre Georges et Alonso. Alonso était né dans les années 20 en République dominicaine. Le redoublement de son patronyme germanique nous indique, comme pour son ami et proche compagnon d'armes, le général Elias Wessing i Wessing, que sa famille appartenait à l'élite blanche de l'île et entendait le marquer par ce redoublement, entendait signaler la pureté de son sang indemne de tout croisement avec des races inférieures indiennes, juives, nègres ou autres. Dans les derniers temps de sa vie, Alonso était un quinquagénaire au teint brun, au corps dodu, aux tempes teintes, qui habitait une grosse ferme dans une très vaste propriété à Villeneuil, qui est un hameau situé à 30 km de Magny-en-Vexin en France. Dans les derniers temps de sa vie, Alonso se faisait appeler Taylor. Le courrier qu'il recevait, qui était très peu abondant, était adressé à M. Taylor, ou parfois au colonel Taylor. Auprès des fournisseurs et des voisins, il passait pour un Nord-Américain, ou peut-être un Britannique, qui avait longtemps vécu aux colonies où il avait fait fortune par le commerce. En fait, Alonso était très riche, mais menait une existence misérable. Il vivait absolument seul. Il avait peur. Personne ne travaillait la terre de sa vaste propriété et il n'y avait pas de domestique dans la demeure parce qu'Alonso ne voulait laisser entrer personne. Les seules personnes qu'il laissait entrer durant la brève période qu'il a passée ici et qui constituent les derniers temps de sa vie, c'étaient deux types au vocabulaire très limité et précis, en complet sombre, qui circulaient dans une Lancia Beta Berlin 1800 écarlate. Ce qui n'est pas discret et ne leur ressemble pas. L'un des deux types était plus petit et plus jeune que l'autre, avec des cheveux noirs ondulés et des yeux d'un très joli bleu. Il plaisait aux femmes. Au bout d'un moment, elle découvrait que la seule chose qui l'intéressait chez les femmes, c'était qu'elles le battent. Lui, il ne les battait pas, et il ne voulait absolument pas les pénétrer non plus. Alors les femmes rompaient avec lui, sauf les perverses sadiques. Mais les perverses sadiques, il les chassait, dès qu'il sentait qu'elles prenaient plaisir à le battre. Il disait qu'elles le dégoûtaient. L'autre type était un quatragénaire au front dégarni, un peu prognate, avec de grandes dents et des mèches de cheveux secs d'un blanc livide. Ce type-ci avait une grande cicatrice à la gorge, en travers, en arc de cercle, très impressionnante. Il avait pris l'habitude de rabattre son menton contre son cou pour cacher cette cicatrice. Il était grand et dégingandé, et cette façon de tenir la tête lui donnait un maintien bizarre. Ces deux types aussi ont tué un tas de gens. Mais il n'y avait pas de commune mesure entre eux et Georges Gerfaut, et ils ne ressemblaient pas non plus à Alonso. C'était leur second métier de tuer des gens. Auparavant, le plus jeune avait travaillé dans l'hôtellerie comme serveur, puis réceptionniste trilingue. Et l'autre avait été soldat de fortune. Georges Gerfaut est cadre commercial. Son métier est de vendre à des particuliers et des collectivités, en différents endroits de France et d'Europe, les coûteux matériels électriques que fabrique sa boîte, une filiale du groupe ITT, et dont il connaît le fonctionnement car il est ingénieur. Et le métier d'Alonso était la guerre. Il était officier de l'armée dominicaine. Il faisait partie du SIM, le service d'investigation militaire. Les meilleures années de sa vie, ce furent les années 55-60, qu'il passa à la base aérienne de San Isidro. Il n'y faisait pas la guerre. Le seul État à quoi la République dominicaine pourrait commodément faire la guerre, c'est la République d'Haïti, parce qu'elle se trouve sur la même île que la République dominicaine. Tous les autres pays sont séparés de la République dominicaine au moins par une grande étendue d'eau. Mais il n'y avait pas non plus de guerre avec Haïti. Alonso s'en trouvait bien. À la base aérienne de San Isidro, de concert avec son collègue et ami Elias Wessing y Wessing, commandant de la base et promis à un destin un peu historique, quoique très médiocre. Il envoyait les avions de la force aérienne dominicaine jusqu'à Porto Rico, d'où les avions rapportaient des alcools et autres denrées sans payer de droits de douane. Alonso et Elias vivaient comme des coqs en pâte. Et ils étaient intouchables. Car s'il n'y avait pas la guerre étrangère à Saint-Domingue, comme dans beaucoup d'endroits, il y avait comme partout la guerre sociale. Et la fonction principale de l'armée dominicaine était comme partout de gagner la guerre sociale chaque fois que le besoin s'en faisait sentir. Les tâches de renseignement du SIM, dans cette optique, étaient essentielles. On amenait régulièrement à San Isidro des personnes soupçonnées d'intelligence avec l'ennemi de classe. Et le travail du SIM, sous la direction d'Alonso, était de les faire parler. En les battant, en les violant, en les incisant, en les électrocutant, en les castrant, en les noyant dans des locaux ingénieusement conçus et en leur coupant la tête. Le 30 mai 1961, Trujillo, le bienfaiteur, se fit cribler de balles sur une route par un commando dont on rattrapa ultérieurement les membres et certains complices. Pour Alonso et Elias, les beaux jours étaient finis, ou presque. Les fils du bienfaiteur se maintinrent 180 jours et après eux, sous la présidence de Balaguer, Alonso et Elias eurent encore le loisir de préparer les élections de 1962 en massacrant les pecnos de Palma Sola et en liquidant le général loyaliste Rodríguez Reyes. Et après l'élection du petit démocrate Juan Bosch, Elias le renversa pour mettre à sa place Donald Reid Cabral, représentant à Saint-Domingue la CIA et les automobiles Austin. Et moins de 2 heures plus tard, Elias vit bien qu'il y avait une révolution derrière l'ex-flic démocrate Camano et qu'il s'en donna à cœur joie avec ses tanks et ses Mustangs et ses météores, surtout contre les faubourgs nord de la ville de Saint-Domingue, parce qu'effectivement c'est là qu'était le plus gros danger. Les milices ouvrières et autres cochons pillants, la grande fabrique de bouteilles Pepsi-Cola près du cimetière pour faire des cocktails Molotov. Mais les Américains, qui avaient comme Elias aperçu le vrai danger, derrière les proclamations modérées, pour ainsi dire kennedyistes de Camano, et qui conséquemment avaient apporté à Elias un soutien absolument déterminant en logistique, armes, munitions, hélicoptères, porte-avions, ponts aériens, 1539 atterrissages et cochonneries de merde de corridors neutres, les Américains, après la victoire, grugeront Elias et l'exileront un moment à Miami. C'est déloyal. Mais quant à Alonso, il n'était plus là depuis 1962. Il n'avait pas, comme Elias, le goût du pouvoir, seulement celui du confort. Il avait supervisé le départ de la famille du bienfaiteur, y compris les bagages, le cadavre, les archives nationales, l'extraordinaire quantité de pognon. Cela lui avait donné des idées. À l'instant où les élections de 62 portaient Juan Bosch au pouvoir, Alonso s'envola vers l'exil, où il avait préalablement envoyé quantité de blé.
Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et donc retour au roman de Jean-Patrick Manchette, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, après ce moment musical. Peut-être l'intelligence d'Alonso se dégrada-t-elle dans les années qui suivirent et qui furent des années d'errance de plus en plus précipitées. Ou peut-être Alonso était-il dès l'origine un demi-crétin. Souvenons-nous qu'il n'était parvenu dans son moment de puissance maximum qu'à une situation de policier militaire supérieur. On s'étonnera moins de le voir dans les dernières années de sa vie terrorisé et ne laissant entrer chez lui personne, ni cultivateur ni serviteur, de peur qu'il puisse agir d'un agent de la CIA ou du gouvernement dominicain ou d'une quelconque organisation de révolutionnaires dominicains exilés. Au vrai, Alonso vieillissait. Lorsqu'il vint s'installer en France, à peu de distance de Magny en Vexin, il était brisé. Suffisamment en tout cas pour décider de ne plus bouger. Souvenons-nous d'ailleurs qu'il s'agit d'un homme qui, comme la veuve d'un condamné refusait de croire à la mort de son mari, lui avait fait envoyer par colis postal la tête du mort avec quelque chose entre les dents. Et convenons que, si ses craintes n'étaient pas raisonnables, leurs racines l'étaient. Il avait même interdit au facteur d'entrer. Le préposé déposait le rare courrier dans une boîte au bord de la route à la grille de la propriété. Des fois qu'il aurait voulu passer outre et à toute autre fin utile, Alonso entretenait un chien de combat, une femelle, Bull Mastiff. Ainsi, les terres autour de la demeure n'étaient pas travaillées et ne produisaient rien. Et l'intérieur de la demeure allait à l'abandon, faute de personnel. Les paysans alentour grognaient de voir cette terre improductive. Ils parlèrent plusieurs fois de manifester à ce sujet. Ils allaient sûrement finir par se décider. La mort d'Alonso a résolu la question. Auparavant, dans les derniers temps de sa vie, Alonso cessait vers 5 ou 6 heures du matin d'essayer de dormir. Il quittait son lit froissé et sa chambre à l'étage. Dans la grande cuisine, il se confectionnait un breakfast à l'anglaise, composé d'un jus de fruits, d'une assiettée de céréales au lait et d'un plat chaud accompagné de thé fort et parachevé de toast qu'il fendait en deux triangulairement avant de les recouvrir d'une couche mince de beurre et d'une pellicule de miel ou de marmelade d'orange. Après ce petit déjeuner, Alonso revêtait un survêtement et courait longuement en petite foulée à travers sa propriété, sur la terre envahie de mauvaises herbes, en compagnie de la chienne nommée Elisabeth. Puis il regagnait sa demeure et n'en bougeait plus de la journée, sauf pour répondre aux coups de sonnette des fournisseurs. Alors il observait la grille à travers une fenêtre du rez-de-chaussée avec des jumelles très puissantes. Satisfait, il sortait de la maison et gagnait la grille, armé d'un colt de calibre 38 long. Il prenait livraison des denrées qu'on lui avait apportées. Il ne tolérait pas que le livreur pénétrât dans la propriété et portait lui-même les denrées jusqu'à la maison. Il s'agissait parfois de denrées lourdes, par exemple une caisse de whisky, et tandis qu'il portait la caisse jusqu'à la maison, Alonso transpirait profusément et il avait des tremblements incontrôlés dans les mollets et aussi au coin de la bouche. Dans le salon de la demeure, il y avait une chaîne haute fidélité ouest-allemande de marque Sharp. Alonso les poussait soigneusement, alors que le reste des meubles et équipements de la demeure n'étaient presque jamais nettoyés et se recouvraient irrémédiablement d'une couche de crasse grasse. De même, Alonso époustait les enceintes quadriphoniques qui se trouvaient un peu partout dans la maison, de telle sorte que la musique diffusée par la chaîne pouvait être entendue partout, même dans les deux latrines et les deux salles de bain. Les goûts musicaux d'Alonso étaient très différents de ceux de Georges Gerfaut. La discothèque d'Alonso peut être divisée en trois secteurs. D'abord, la musique classique, du Bach, du Mozart, du Beethoven. Puis des variétés américaines sirupeuses, du Tony Bennett, du Billy May. Ces disques, Alonso ne les écoutait jamais. Ce qu'il écoutait sans arrêt à partir du moment où il avait terminé sa promenade avec Elisabeth, c'était du Tchaïkovski, du Mendelssohn, du Liszt. En même temps qu'il écoutait ces musiques, Alonso était assis dans son bureau au rez-de-chaussée avec les terres envahies de mauvaises herbes qui se déployaient derrière les fenêtres toujours fermées et avec le Colt posé sur le coin de sa table de travail. Et il rédigeait ses mémoires avec un stylo Parker sur des feuilles de papier pelure. Il écrivait très lentement. Souvent, il n'écrivait même pas une page entière en 10 ou 15 heures de travail. Il ne déjeunait pas. Le soir, vers 18h30, il dînait de conserves et de fruits dans la cuisine. Ensuite, il mettait la vaisselle sale dans une machine à laver la vaisselle où elle rejoignait la vaisselle du breakfast. Alonso continuait à travailler plusieurs heures, puis il arrêtait la musique. Il mettait en marche la machine à laver la vaisselle et il montait à l'étage avec un livre et se couchait dans son lit défait et froissé. Il attendait que le sommeil vienne, et le sommeil ne venait pas. Alonso entendait la machine à laver la vaisselle en bas passer par les différentes phases de son programme avec des pauses et des déclics. Il lisait indifféremment en anglais, en espagnol et en français, principalement des mémoires écrits par des chefs militaires ou des hommes d'État, comme Winston Churchill, De Gaulle, ou des romans militaires, surtout de Forrester. Il avait aussi des numéros de la revue américaine Salas Playboy. De temps à autre, chaque soir, il se masturbait sans grand succès. À plusieurs reprises, ainsi, les soirs, il se relevait et errant dans la maison, son livre à la main, son médius marquant la page et parfois semblablement sa verge lasse dépassant de sa braguette de pyjama, il vérifiait que toutes les fenêtres étaient bien fermées. Elles l'étaient toutes, toujours. Et il donnait un supplément de viande à la femelle boule massif Elisabeth. Elisabeth, Georges Gerfaut l'a tuée aussi. Dans sa Mercedes, Georges Gerfaut roulait sur la route nationale 19. Il venait de passer Vendreuve et se dirigeait vers Troyes en pleine nuit, les deux diffuseurs diffusant du John Lewis, du Jerry Mulligan et du Shorty Rogers. À gauche et à droite, les ténèbres étaient comme une muraille. Et elles défilaient à 130 km/h. C'est alors que la déesse le doubla. Elle s'était annoncée à peine un coup de phare au dernier instant et aussitôt, elle sauta la Mercedes dans un virage masqué, tanga un peu en se rabattant sec et disparut dans la courbe suivante en moins de temps qu'il n'en faut à Gerfaut pour murmurer « Ah le con !» 10 minutes plus tard, il la revit. Entre-temps, il ne s'était rien passé, sauf que Gerfaut avait doublé une vieille camionnette Peugeot à l'éclairage insuffisant et s'était lui-même fait doubler par un petit bolide écarlate, probablement italien. Puis rien. Puis là, maintenant, soudain, ses phares accrochaient quelque chose au bord de l'obscurité. En même temps, Gerfaut vit des feux arrière immobiles sur la route. Il leva le pied. Les feux arrière se mirent en mouvement et furent littéralement aspirés par la nuit. Mais peut-être n'était-il pas du tout immobile initialement, illusion d'optique peut-être. La déesse en tout cas était immobile et hors de la chaussée, une aile dans le fossé, l'autre toute pliée et boursouflée contre le tronc d'un arbre, une portière arrachée, projetée 10 ou 12 mètres plus loin, reposant moitié sur la chaussée, moitié sur l'herbe de l'accotement, vitre pulvérisée. Gerfaut vit tout ça d'un coup, tandis que la Mercedes, sur son air, longeait l'épave, la dépassait, dépassait la portière arrachée, le compteur de vitesse de la Mercedes indiquant encore 80, et Gerfaut fut tenté d'accélérer de rechef. Ce qui le retint davantage que le sens des convenances ou un impératif catégorique, c'est l'idée que les gens de la DS sont sans doute là dans le noir, et peut-être relèvent ton numéro. Non-assistance à personne en danger. Gerfaut freina, pas brusquement, avec un certain manque de conviction, il s'immobilisa 80 ou 100 mètres plus loin. Là-bas, des feux arrière. Le bolide italien, une Lancia, 1800, achevait de disparaître dans la nuit. Et Gerfaut regarda anxieusement autour de lui, ne vit derrière soi que l'obscurité. La déesse s'y était engloutie aussi. Tenaillé encore par l'envie de poursuivre sa route, l'homme grogna entre ses dents tandis qu'il passait en marche arrière et revenait vers le lieu de l'accident en zigzaguant un peu. Il se rangea sur l'accotement entre deux arbres à côté de la portière arrachée. Le lecteur de cassette diffusait « 2 degrees east »,« 3 degrees west ». Gerfaut arrêta le lecteur de cassette. Peut-être allait-il découvrir des cadavres hideusement mutilés, une fillette aux nattes gluantes de sang ou bien des blessés retenant leurs tripes à deux mains. On ne peut pas décemment faire ça en musique. Il descendit de la Mercedes avec sa torche électrique étanche qu'il braqua du côté de la déesse aussitôt. À son soulagement, il ne vit qu'un homme et il était debout. C'était un homme petit, des cheveux blonds frissotés, un début de calvitie, le nez pointu, des lunettes cerclées de plastique. Le verre droit était nettement fendu. L'homme portait un caban et un pantalon de velours marron à grosses côtes. Il regardait Gerfaut avec de grands yeux apeurés. Il était appuyé au capot de la déesse du côté droit et il haletait. « Hola !» fit Gerfaut. « Ça va ? Vous n'avez rien, ça va ?» L'homme bougea vaguement, hocha peut-être la tête, faillit tomber. Gerfaut s'approcha avec inquiétude. Son œil accrocha par hasard la zone humide et sombre qui se dessinait, très discrète, au flanc de l'homme sur le drap sombre et pelucheux du caban. « Vous êtes blessé au flanc, » dit Gerfaut. Et son esprit évoquait pour soi-même l'odeur du sang et son goût. Et Gerfaut se dit « Nom de Dieu, je vais gerber. »« Hôpital, » dit l'homme. Et ses lèvres remuèrent encore, mais il n'arriva pas à ajouter quoi que ce fût. C'était au côté gauche qu'il saignait. Gerfaut lui saisit le bras droit, se le passa autour du cou et entreprit de soutenir le blessé et de l'entraîner vers la Mercedes. Une voiture de marque non identifiée passa à grande vitesse dans un miaulement. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Ces premières pages du roman de Jean-Patrick Manchette, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, que vous pourrez vous-même continuer, je l'espère. Donc cette émission est terminée pour ce soir. C'est une émission qui a été réalisée par Frédéric Guyon. Si vous voulez écouter l'émission en podcast, vous pouvez le faire sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.